Chapitre 30. Bonne intelligence qui ne durera pas. Monsieur de Verneuil cessa de parler et Jeannette, après l'avoir remercié des choses flatteuses pour elle qu'il avait placées dans son récit, admira, ainsi que sa mère, la noble fierté du caractère de Cécile qui ne voulait rien devoir à la générosité, tout au travail. Jeannette, qui connaissait mieux que tout autre le cœur de son amie, expliqua sa conduite en hasardant même quelques réflexions peu agréables pour monsieur de Verneuil. « Aussi, monsieur, lui dit-elle, peut-on blâmer une jeune personne qui, seule, sans époux, sans parents, peut attirer sur elle les traits de la calomnie en recevant des bienfaits d'un ancien ecclésiastique, célibataire et propre à inspirer de l'estime ? Le monde est si méchant. Que n'avons-nous pas entendu dire de vos visites chez nous quand nous demeurions chez madame Aubry ? Cette madame Aubry elle-même était la première gazette qui faisait part à tout le monde de ses conjectures sur notre manière d'exister, et vous étiez toujours pour quelque chose dans ses coups de langue. Je conviens que, chez madame Dolmont, le séjour d'une jeune personne était avoué par la décence, mais vous y demeuriez aussi, vous, monsieur, et rien ne pouvait empêcher la malignité de ternir la réputation de mademoiselle d'Hérenville. Au surplus, amis rares et précieux, je vous remercie bien sincèrement de ce que vous avez fait jusqu'à présent pour Cécile. Vous êtes digne de l'estime des honnêtes gens et je ne trouve plus de termes pour vous exprimer ma reconnaissance. À présent que Cécile est ici, je vous prie de me permettre d'achever votre ouvrage. Daignez m'aider aussi pour l'engager à vivre avec moi, avec ma mère et mon époux. J'ose croire qu'elle ne me refusera pas, mais si vous joignez vos sollicitations aux miennes, je suis plus sûre d'obtenir d'elle cette faveur. » Monsieur de Verneuil et sa sœur promirent à Jeannette de la seconder dans ce louable projet. Cécile rentra avec Émilie et, sachant que tous ses amis avaient appris sa détention avilissante, elle rougit sans oser lever les yeux sur Jeannette. Celle-ci, qui devina le motif secret de sa honte, s'empressa de la distraire de ses lugubres idées. Elle lui fit compliment de son attachement pour M. de Verneuil, qui, ajouta-t-elle, est l'homme le plus estimable que je connaisse. Ce mot fit un secret plaisir à M. de Verneuil, mais il reprit sa tristesse en pensant que Jeannette était mariée, qu'il avait perdu tout espoir d'être jamais heureux. Cet homme sensible avait dévoilé son cœur à sa sœur. L'estimable madame Dolmont, jalouse du repos de son frère, l'engagea à fuir une maison où tout nourrissait son inutile passion. En conséquence, pour avoir un prétexte honnête de partir, M. de Verneuil, feignant d'entrer dans les vues de Jeannette, annonça, le même soir au souper, que le lendemain matin, il retournait à Paris avec madame Dolmont. « J'ai quitté, ajouta-t-il, recouvrement, procès, le diable !» qui m'occupe journellement dans cette ville où je n'ai pas un moment à donner à mes plaisirs. Mes affaires souffriraient d'une trop longue absence. Mademoiselle d'Hérenville voudra bien me faire oublier près de vous. « Eh mais, répondit Cécile un peu troublée, je croyais, mon ami, que vous me donneriez une place pour revenir à Paris. » Jeannette prend la main de Cécile. « Mademoiselle, lui dit-elle d'un ton touchant et attendri, je ne vous rappelle qu'un mot de vous. » Après cela, vous me quitterez si vous en avez le cœur. Ce mot, vous me l'avez dit avant notre séparation. Jeannette, ma bonne Jeannette, c'est ainsi que vous vous exprimiez. J'estime trop l'amitié pour rougir de partager ton sort. Jeannette changea là quelques mots, car Cécile lui avait dit pour rougir de ses bienfaits. Partez, mademoiselle, partez à présent si vous ne m'entendez pas. Cécile resta interdite. Sa méfiance et sa misanthropie voulurent d'abord lui dicter sa réponse. Mais son cœur fit taire ses deux tristes conseillers et elle ne répondit à Jeannette qu'en lui jetant ses deux bras au col. « Je vous entends, s'écria Jeannette. Vous restez avec moi, avec ma mère, ma bonne mère, qui, dès ce moment, croira posséder deux filles tendres, également portées à l'aimer, à la respecter. Jeannette, je n'ai pas dit cela. » « Non, mais je le dis pour vous. Veuillez, monsieur de Verneuil, dès votre retour à Paris, donner congé de la chambre de mademoiselle d'Hérenville. » Souriant, « Vous lui donnerez bien votre procuration pour cela, n'est-ce pas, mon ami ?»«
Mais, Jeannette !»«
Plus de mais, un bon oui, voilà ce que je vous demande. »«
Eh bien, Jeannette, tu l'emportes. » »«
Ah, bon cela, voilà un tu qui me rassure sur vous. » »«
Pardon, je ne pensais pas que... »
Voilà un pardon qui m'éloigne à présent.
Jeannette, ma chère Jeannette, mène-moi donc à ton gré. Oui, je reste avec toi, je m'honore de ton amitié, de tes bienfaits, et cette victoire que tu remportes sur ma délicatesse est un sûr garant de ma tendresse pour toi.
Monsieur de Verneuil et Madame d'Olmont félicitèrent Cécile sur sa détermination et Madame d'Héricourt l'en remercia avec une grâce touchante. Le lendemain matin, M. de Verneuil partit avec sa sœur Émilie et Cécile resta définitivement près de Jeannette. Toute l'inquiétude de Cécile était de savoir comment M. de Briceval prendrait son séjour dans sa maison. Elle ne le connaissait pas et, quoique Jeannette lui assurait que son époux était un homme honnête et complaisant pour sa femme, Cécile craignait avec raison que le mari ne partageât pas l'excès de la tendresse que l'épouse avait pour elle. Cependant, elle se rassura sur cette vaine terreur quand Madame d'Héricourt lui eut répété les mêmes éloges que Jeannette avait fait de Briceval. Cécile, heureuse et tranquille autant qu'elle pouvait l'être loin de Saint-Ange, se livra tout entière aux effusions des deux excellentes créatures qui la recevaient, et elle tâcha de se rendre utile auprès d'elle par quelques petits soins, quelques légers travaux de son sexe.
Vois donc, dit-elle à son amie, « vois, Jeannette, ce que c'est que la bizarrerie du sort. Me voilà précisément chez toi, telle que tu étais chez mon père. Comme tout change !»«
Mademoiselle dit là un mot qui m'affecte beaucoup. Est-ce que mademoiselle peut se mettre à la place qu'occupait, chez M. d'Héranville, une pauvre orpheline élevée par charité ? Mon amie doit se croire autant que moi la maîtresse dans cette maison. »
« Oui, mon ami, mais il y a encore un maître que je n'ai pas encore vu et qui peut, avec raison, trouver mes prétentions très ridicules. »«
C'est à mademoiselle à attendre qu'elle le connaisse avant de le juger. »«
Mais à propos, Jeannette, tu ne m'as pas dit ce que c'est que ce bel enfant que j'ai tant caressé chez toi ces jours-ci. Ce ne peut être ton fils, car il paraît avoir 4 ans et tu n'es mariée que depuis près de 2. »«
Cet enfant... » Jeannette pâlit. « C'est un jeune orphelin que mon époux m'a recommandé avant son départ. Il y prend un vif intérêt. »
L'aimable enfant, je ne sais pourquoi, son aspect excite en moi un trouble. Il me rappelle mon fils qui serait de son âge. »
Cécile soupira. Jeannette soupira aussi de son côté, mais par un motif bien différent. Cécile pensait à son amant. Jeannette était jalouse et songeait au peu de délicatesse qu'elle supposait à son époux qui avait introduit chez elle le fils de l'amour ou du libertinage. Ces deux personnes restèrent quelque temps rêveuses. Madame de Ricourt vint les distraire de leur mélancolie et la sérénité reparut sur tous les fronts. Un mois s'écoula sans que Briceval reparût. Jeannette en était inquiète à l'excès et Cécile redoutait l'arrivée de cet étranger dont elle appréhendait les froideurs et l'étonnement. Cécile était plus tranquille en ne le voyant pas arriver, mais combien elle coûtait de soins à la délicatesse de Jeannette. Avec quelle peine celle-ci la forçait-elle d'accepter les objets même de première nécessité ? Quel détour il fallait qu'elle prît pour lui faire partager quelques vêtements de luxe et quelques légers bijoux dont Jeannette feignait de vouloir se défaire pour l'engager à les recevoir. C'était une véritable étude pour Jeannette et il lui fallait vraiment tout le courage, toute la constance de l'amitié pour chercher tous les jours de nouveaux moyens d'obliger son amie sans alarmer sa misanthropie, sans blesser sa délicatesse.